Nous avons déjà lu une partie du psaume 107, et je continuerai le psaume 107, 106 dans les français courants, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 30. Cette fois-ci, je lis dans la version second 21. Psaume 107, pour ceux qui ont fermé leur Bible. Verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et s'émerveillent en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les a conduits au port désiré. Et une deuxième lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset 22. Luc 8, 22. Je lis toujours la version second 21. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir ». Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant ta parole qui nous façonne, tel un vase d'argile. Bon, certainement parfois, un vase très fragile, mais ô combien ton amour nous maintient. Seigneur, continue ton œuvre en nous. Et merci parce que toi, tu as été jusqu'au bout. Seigneur, renouvelle nos forces et notre vision de toi surtout. Au nom de Jésus. Amen. On a lu tout le psaume 107 et il relate les péripéties de plusieurs hommes, plusieurs catégories d'hommes et de femmes qui ont vécu certains aléas. Il fait en sorte le bilan d'une vie, comme si l'année était passée, on dit bon, on a fait ça, 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 ça. Il parle de ceux qui se sont perdus dans le désert, ceux qui sont découragés, mourant de faim, et de soif d'autres qui étaient en prison. Ceux qui refusaient ce que Dieu disait, d'autres encore qui avaient perdu la raison, qui montraient une conduite dépravée, par leur faute d'une vie complètement dissolue, ils avaient déjà un pied dans la tombe, nous dit ce psaume. Et enfin, le dernier passage que nous avons lu, les marins en proie à la tempête. Ce psaume, il est évident, nous rapporte ce que le peuple d'Israël a vécu à cause de son entêtement, de sa désobéissance, de sa rébellion vis-à-vis de Dieu, qui, malgré tout, a délivré, nourri, abreuvé, libéré, guéri, sauvé. De 4000 ans, après ce psaume, se sont écoulés, et notre monde est toujours dans le même état. Rien de nouveau sous le soleil. Non, rien n'a changé, souvenez. Mais si nous tirons un peu le bilan géopolitique, il est catastrophique. Réchauffement climatique, flux migratoire, surexploitation des ressources naturelles. Il y en a qui mangent bien, il y en a d'autres qui, malheureusement, meurent de faim. La corruption en tout genre, tout est bouleversé. Alors, on essaie de trouver des solutions. La réduction des énergies fossiles. Ah, le commerce équitable aussi, on essaie de faire la part des choses, moins manger pour les autres, pour envoyer chez les autres. Ou une taxe d'environnement, comme ça, ben, ou le taux, on paye, comme si ça allait changer quelque chose. C'est comme au casino, la bille est lancée, rien ne va plus, rien ne change. Le psaume 107 nous montre quatre tableaux peints en peinture noire, triste, défaitiste, si on est pessimiste. Par contre, si on est optimiste, on peut voir que pour chaque cas, il a une solution. Il a eu une solution chaque fois. Un bilan peut être lu avec des désarroi ou reconnaissance. On peut dire, oh, même on peut regarder l'année passée comme une année à revivre ou à oublier. On n'en veut plus. Oh non, si c'était à refaire. C'est un peu le cas du verre à moitié vide ou à moitié plein. Ben, pourtant, c'est toujours la même eau qui fait le niveau. Rien n'a changé. Suivant que vous regardez en arrière, en regret ou en remords, ou en bénédiction, le moral changera. Et ça changera beaucoup parfois. Dans notre psaume, les trois premiers cas, désert, prison, folie, les hommes ont leur responsabilité. C'est un petit peu de leur faute s'ils sont là. Hein. Les premiers s'égarent dans leur chemin et se retrouvent dans le désert. On n'a pas de boussole peut-être, c'est perdu. Les deuxièmes étaient en prison, enchaînés. S'ils sont en prison, ils ne sont pas allés tout seuls. De plus, ils se sont rebellés contre l'autorité de Dieu, nous dit ce psaume. Les troisièmes se sont conduits en insensés. Par leur faute, ils étaient tourmentés, écœurés par leur nourriture. Ils avaient déjà un pied dans la tombe, et ils étaient morts vivants ou vivants morts. Par contre, le quatrième tableau que nous avons lu, avec les marins, nous dépend des marins qui utilisent leur bateau à des fins tout à fait professionnelles. Ils ne demandent qu'à faire leur job, mais se retrouvent dans une situation de tempête, bien malgré eux. Il est évident quand même que s'aventurer en haute mer, ben, court quand même le risque de se retrouver dans une tempête. Mais quel rapport avec notre vie et nous? Ça ne risque pas de nous arriver, nous. Hein, bon, les bateaux qu'on a à notre portée, bateau de Liège, ou la navette sur la Meuse, pas peur d'avoir une tempête. Hein, c'est bien que, c'est jamais. Mais il y a quelques années, j'ai fait un camp dont le thème était « Mon bateau sur l'océan de la vie ». Parce que je fais des photos de bateaux partout. Et je développais certains aspects de la vie comme des bateaux que l'on prenait et que l'on quittait parfois ou pas. Et des exemples, c'était le bateau de mes parents, je quitte ou je reste avec mes parents, le bateau de la connaissance, hein, le savoir, le bateau du mariage, le bateau du travail, le bateau de la richesse. Mais toutes ces embarcations sont sur le même océan. Qu'une tempête arrive, toutes seront secouées de la même manière. La différence, c'est à quoi je vais m'accrocher. À quoi je vais m'accrocher? À mon passé, à mon savoir, à ma connaissance, à mon conjoint, à mon patron, à mon pognon. Vous avez certainement déjà vu cette émission, Les orages de la vie. Je crois qu'on pourrait tous y passer. On pourrait tous y passer parce que on n'a pas parfois été épargné par toutes ces vagues. C'est vrai qu'il y a certains cas extrêmes. Mais à moi, qu'est-ce que l'orage m'a apporté? Qu'est-ce qui m'a apporté? J'ai déjà vu un orage, moi j'aime bien regarder. J'aime bien les éclairs. Bon, la compeur du bruit. Qu'est-ce que l'orage m'a apporté? La trouille, des flashs dans les yeux, des vibrations dans les oreilles peut-être, d'être trempé, oui, mais à part ça. Loin d'être des criminels en puissance ou des insensés fous, nous n'avons peut-être pas connu la faim ou la soif, mais nous avons quand même dû traverser quelques moments de grêle ou de tempête, où nous savions que le Sauveur allait nous en sortir, ou pas. Peut-être qu'on était convaincu que, bon, de toute façon, après la pluie, vient le beau temps. pour qu'on ne se tracasse pas trop. Mais sur cette mer agitée de la vie où les vagues sont tellement hautes et creusent parfois qu'on en attrape le vertige, comme nous dit le psaume, vous imaginez creux de vagues qui descend, ou parfois qu'on se le retrouve comme un ivrogne sans avoir bu une goutte d'alcool, ou alors toute habileté, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait faire est réduit à néant. Ces marins étaient déchevronnés, mais rien n'y faisait. Il n'y a aucun espoir. Si tu sais rien faire. Dans les trois premiers cas que nous avons lus, désert, prison, folie, il y a une solution humaine possible, puisque les personnes qui vivent ce genre de choses sont en partie responsables de leur état. Mais le psalmiste tient à rendre à Dieu toute la gloire de leur délivrance après la prière. En effet, au verset 6, 13 et 19, nous indique que les hommes en péril ont crié au Seigneur. Ils ont tous crié au Seigneur. Ils se sont rendus compte à un certain moment qu'ils avaient écarté Dieu de leur vie. Et dans leur détresse, ils ont appelé. Et le Seigneur s'est exécuté. Il a délivré et sauvé du danger, de leur danger, dans lequel ils s'étaient mis. Ils ont été libérés de l'angoisse. Le texte hébreu est encore plus profond. Dieu les a libérés de l'anxiété, de leur angoisse. C'est encore beaucoup plus profond. Et l'auteur du psaume s'exclame par trois fois en un conseil avisé. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Ah, le bon Dieu! C'est étonnant. Les humains sont reconnaissants parce que Dieu est bon, parce qu'il fait des miracles pour eux. En d'autres temps, c'est juste le bon Dieu qui n'est pas bien méchant. Alors, si on subit une catastrophe, on dit que c'est sa faute. Mais dans le cas qui nous intéresse, les délivrances sont opérées, mais auraient pu être arrêtées naturellement. Il aurait pu arrêter de boire, il aurait pu sortir de prison. C'est de toute façon, ça se passe souvent comme ça. Ça peut arriver. C'est quand même dire, bon, ben, tout vient à profit, bon, le temps passe. Et puis la prière, bon, ça ne sert à rien. De toute façon, il va quand même nous délivrer. C'est ce qu'on appelle du cynisme. Et le désert aussi, on peut dire, a une limite. Ça peut s'arrêter. On peut trouver une oasis. Dans la prison, la porte de sortie serait libérée tôt ou tard. La folie, ben, peut prendre fin. Parfois, il y a des fous qui restent fous, mais ça peut prendre fin. On peut prendre des médicaments, on peut apaiser. Dans les célibérations, on peut très bien ne pas mettre Dieu dans le coup et dire, bon, c'est tout à fait naturel, quoi. Et ne pas lui accorder non plus le bénéfice du salut. Mais quand c'est vraiment Dieu qui déclenche l'ouragan, qui nous submerge, parfois la réaction est la même. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Même les chrétiens le disent. Ou même, parlant des autres, oh, ça lui arrive à lui, mais il ne mérite pas ça quand même. Mais, comme vous savez, la vie est une mer en mouvement permanent, où rarement le chemin est tout tracé. La vie est un long fleuve tranquille. Non, peut-être. C'est jamais tout droit, sans déviation. Et ici, je voudrais partager un témoignage de Paul Miller, qui a écrit un livre qui s'appelle Une vie en prière. Paul Miller est directeur de ce qu'il a créé lui-même, ce qui s'appelle Si Jésus. Donc, c'est une mission mondiale de formation de disciples qui a été fondée en 1999 pour aider les chrétiens et les non-chrétiens à voir Jésus. Et aujourd'hui, Si Jésus travaille dans plus de 30 pays et a des livres et du matériel interactif d'études bibliques traduits en une douzaine de langues. Magnifique. Voir Jésus. Et dans ce livre, il raconte qu'ils ont eu avec sa femme 6 enfants, 5 en parfaite santé. Quand elle attendait une des filles, j'ai pas pu déterminer si c'était la toute dernière, Gilles, son épouse, pria le psaume 121 et demanda à Dieu de garder son bébé de tout mal. Mais l'accouchement s'est mal passé. La petite aînée autiste muette. Je vous passe tous les détails. Et ils n'auront que le diagnostic que 19 ans plus tard. En fait, le médecin accoucheur a mis trop de médicaments pour provoquer l'accouchement. Il s'en est suivi, autiste, complètement muet. Donc ils ont dû s'adapter à un enfant handicapé et communiquer avec un ordinateur vocal. Comment Dieu a-t-il pu laisser faire ça? On va s'arrêter là, mettre ça sur son dos. Et en finalité, ben, la maman et les autres des filles sont devenues des éducatrices spécialisées, un peu à force des choses. La famille a évité d'être aussi asphyxiée par un chauffe-eau défectueux parce que leur fille handicapée était beaucoup plus sensible au monoxyde de carbone. Les parents ont appris à mieux communiquer parce qu'ils devaient vraiment faire attention à ce que leur transmettait leur fille. Oui, c'était une charge, oui, mais à côté de ça, la mère est en permanence agitée. La barque est sans cesse secouée. La tempête peut à tout moment tomber sans crier gare. Alors le tout est notre regard, notre vision de Dieu. Comment je vois Jésus? La fondation de Paul Miller s'appelle « Si Jésus » en français « Voir Jésus ». Alors comment voir Jésus dans ce que je vis, dans ce qui me tombe dessus? Peut-être par ma faute, peut-être pas. Job n'était pas de sa faute. Je peux voir Jésus dans mon bateau. Je peux l'avoir embarqué avec moi. Je peux être converti depuis longtemps et depuis tellement longtemps que le maître s'est endormi. Mais peu importe, Jésus était là, dans la barque, à portée de main. Quel est le problème dans ce récit? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est la peur des disciples? Est-ce que c'est le sommeil de Jésus? Oh, certainement que la mer est déchaînée. C'était le départ. Mais quelle question pose Jésus après avoir calmé les éléments? Où est votre foi? Où est votre foi? Si on relit le texte, c'est que nous voyons que les disciples, ils ont peur deux fois. La première fois, c'est quand ils voient le tourbillon de l'eau qui envahit la barque. Maître, maître, nous allons mourir! Ils ont peur. Et la deuxième fois, c'est après que Jésus leur ait posé la question, où est votre foi? Mais en fait, ils ne l'ont pas écouté. Les disciples sont braqués sur Jésus lui-même, qu'ils ne connaissaient pas. Qui donc est cet homme? Qui donc est cet homme? Ils donnent des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Qui est donc cet homme? Qui voyons-nous en Jésus? Une espèce de magicien qui éventuellement, de temps en temps, fait un miracle? Ou un dormeur qui ne se soucie de rien? Mais la bonne question est, où est notre foi? Où est notre foi? Dans le psaume 107, je relis le verset 23 et 24. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. Ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. Dans nos tempêtes sans fin, parfois, qu'avons-nous vu? La colère de Dieu, le Dieu vengeur, ou l'Éternel qui fait des grandes choses merveilleuses? Et dans nos bateaux, nos frêles coquilles de noix secouées par les vicissitudes de la vie, qui voyons-nous? Un Jésus qui dort? Un homme qu'on ne connaît pas? Un Jésus que je n'écoute pas? Enfin, devant le bilan de l'année écoulée, que dire? Je ne voudrais pas repasser 2023. J'espère que l'année 2024 sera meilleure. Ou me poser la question que je n'ai jamais voulu entendre. Où est ma foi? Où est ma foi? Où a été ma foi en 2023? Mais je ne peux rien changer au passé. Alors je vais me tourner vers l'avenir. Comment vais-je voir Jésus? Suis-je prêt à l'écouter? Où sera ma foi en 2024? Alors, je vais m'accrocher à cette promesse immense. que Dieu nous dit et nous a faite. Psaume 107, verset 30. L'Éternel les a conduits au port désiré. Ça, c'est l'important. Que notre foi soit sur cette vision. Jésus nous conduit au port désiré. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi. Nous avons parfois l'impression que tu es avec nous, mais que tu dors. Mais nous, nous ne t'écoutons pas. Seigneur, merci parce que nous pouvons te confier 2024, parce que nous savons que même s'il y a des tempêtes, tu les traverseras avec nous. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.